France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
De Proclus le Diadoque, on sait qu'il a été un philosophe néoplatonicien du 5e siècle, ayant rédigé plusieurs commentaires des dialogues de Platon. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a rédigé une œuvre intitulée « Hypotypose des hypothèses astronomiques » qui a permis de véhiculer jusqu'à Copernic des idées et méthodes d'observation astronomique antiques qui sans lui se seraient sans doute perdues. Science Chrono revient aujourd'hui sur ce texte qui, après avoir été lu et relayé par les savants pendant des siècles, a connu une éclipse dans l'histoire des sciences. Bonjour Denis Savoie.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, conseiller scientifique à Universcience et chercheur associé à l'Observatoire de Paris. Vous êtes par ailleurs l'un des artisans de la réédition prochaine à l'automne 2025, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions des Belles Lettres de l'Hypotypose de Proclus, dont on va parler dans un instant. C'est un grand plaisir donc de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce personnage assez méconnu et pour comprendre l'importance de ce texte. Avant de nous pencher sur cette histoire, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, on partira au Vanuatu. On vous racontera comment, à partir d'une légende locale transmise oralement depuis des siècles, des archéologues ont fait la découverte en 1967 de la sépulture collective du chef légendaire Roy Mata. Mais avant d'aller vers cette découverte fascinante réalisée dans le Pacifique Sud, retour en Méditerranée au 5e siècle de notre ère. On va voir avec vous, Denis Savoie, l'importance qu'a eu ce texte de Proclus, l'Hypotypose. Et avant ça, j'aimerais que vous nous présentiez ce personnage. Que sait-on de la vie de Proclus, né en 412 à Byzance, et mort en 485 à Athènes? Et grâce à quelles sources on connaît ce personnage?
Alors, on connaît très bien la vie de Proclus parce que son principal élève, qui s'appelait Marinus, a écrit sa vie dans un très beau texte qui s'appelle « Proclus ou du bonheur », dans lequel il donne les dates et toute la vie de son maître, qui donc est né à Byzance, le 8 février 412, on le sait parce que Marinus a dressé un horoscope de Proclus. C'est grâce à cet horoscope qu'on connaît cette date. Donc Proclus naît au sein d'une famille assez aisée, son père est avocat. Il va quitter Byzance et il va aller à Alexandrie, étudier la grammaire, le latin et les mathématiques. Et puis visiblement ça l'intéresse pas tellement, il va rentrer à Athènes et là il va se présenter à l'école néoplatonicienne d'Athènes qui est tenue par un maître qui s'appelle Syrianus. Il arrive, il a à peu près 20 ans et donc il va commencer à massivement étudier tout Aristote. Mmh. Et ensuite il va se lancer dans l'étude de Platon. Et à l'âge de 25 ans, son maître Syrianus décède et il prend sa succession. Donc il va devenir ce qu'on appelle diadoque, c'est-à-dire successeur en fait de Platon, et il va diriger cette école néoplatonicienne d'Athènes pendant à peu près 40 ans jusqu'à sa mort. Ça va être vraiment l'apogée de cette école. Il aura plusieurs successeurs et cette école philosophique, une des plus importantes de l'Antiquité, sera fermée en 529 par le Justinien, et elle ne se remettra pas d'ailleurs de cette fermeture.
L'empereur Justinien, chrétien, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire au 5e siècle, Denis Savoie, d'être philosophe néoplatonicien? Parce que c'est une expression qu'on entend souvent quand on parle d'histoire de la pensée, d'histoire des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire, oui, pour un savant du 5e siècle, de continuer à faire vivre la pensée de Platon, la pensée d'Aristote?
Alors, ça veut dire appliquer à la lettre à la fois l'orphisme, c'est-à-dire la religion des anciens Grecs, ça veut dire également donc tout ce qui concerne les oracles chaldaïques, c'est-à-dire les oracles chaldaïques, ce sont des textes extrêmement importants pour les néoplatoniciens, qui datent du 2e siècle de notre ère, mais qu'on fait monter à une très haute antiquité. Ce sont des textes où des dévots posent des questions à des dieux, et les dieux grecs leur répondent.
Une dimension assez ésotérique.
Ah, mais totalement. Ouais. C'est de l'ésotérisme et de la magie. Sauf que le problème, c'est que ces oracles chaldaïques ne nous sont pas parvenus. On n'a que des fragments. Mais Proclus, lui, avait accès à ces textes. Et on ne sait pas quelles questions étaient posées aux dieux. On ne sait pas ce que les dieux répondaient. Mmh. Mais en tout cas, ça fait partie de la Bible d'un Proclus. Évidemment, tout le reste, c'est ce qu'a écrit Platon, principalement en philosophie et un petit peu en astronomie.
C'est beaucoup de commentaires, finalement. C'est un travail essentiellement de commentaires. Et c'est peut-être même pour ça qu'on connaît aujourd'hui le plus Proclus, c'est cette dimension-là de commentaires philosophiques.
Absolument. Il y a une œuvre immense. On connaît à peu près 40 de ses textes, qui sont tous à peu près des textes philosophiques et métaphysiques. Mais on a deux textes qui parlent de science, d'abord de mathématiques. Son commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide, qui est un texte extrêmement important pour l'histoire des mathématiques, parce que ça nous renseigne sur les mathématiques pré-euclidiennes et sur le statut des mathématiques, parce qu'il avait accès à des sources qui nous sont perdues de ce point de vue-là. Et le deuxième texte, c'est celui qui nous intéresse, c'est l'hypotypose des hypothèses astronomiques. Hypotypose voulant dire exposé sommaire.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire une petite pause là-dedans et dans ce panorama des travaux de Proclus, comprendre l'importance en termes de quantité qu'ont eu ces travaux de commentaires davantage philosophiques et davantage scientifiques? Est-ce que ces commentaires scientifiques, finalement, étaient un petit peu secondaires par rapport à son travail d'études philosophiques?
Alors, totalement, vous avez bien raison. Quand on dirige l'école philosophique néoplatonicienne d'Athènes, on fait d'abord de la philosophie platonicienne, de la philosophie, évidemment, du maître qui est Socrate, et ensuite du successeur de Platon qui est Aristote. Donc, on commente abondamment ces textes, et on essaye d'expliquer l'univers et la nature à partir de ces textes platoniciens. Mais Platon a dit: pour se connaître soi-même et pour connaître l'univers, il faut aussi faire de la science et faire de l'astronomie. Et donc Proclus, qui, pendant qu'il est à Athènes, va être exilé pendant un an, certainement parce que il faisait aussi la politique, il a combattu les chrétiens, va s'exiler en Lydie, c'est-à-dire le sud de la Turquie actuelle, et il va être hébergé par un hôte, et il va promettre à son hôte de faire un commentaire sur l'astronomie. Et là, il va se trouver devant une immense difficulté.
Alors, on arrive justement à cette archive du jour que vous attendiez. Le 26 mars 1987, sur France Culture, était diffusée l'émission Une vie, une œuvre, intitulée Proclus ou le néoplatonisme. On y entendait le philologue, philosophe et historien des sciences Alain Segond expliquer les raisons pour lesquelles l'hypotypose, ce fameux texte vers lequel on se dirige, était selon lui une œuvre de premier ordre.
Proclus se trouvait devant ce nœud de difficulté, c'est-à-dire devait-il croire ce que des scientifiques grecs comme Hipparque et Ptolémée avaient édifié sur la base de quelques observations, ou inversement, devait-il croire ce que les oracles chaldaïques l'invitaient à croire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de précession des équinoxes. Et Proclus, eh bien, commet, disons, à nos yeux, le crime irréparable contre la rationalité et choisit les oracles chaldaïques contre la science grecque. Ce petit ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, l'exposé sommaire des hypothèses des astronomes, est un texte absolument admirable, qui est consacré précisément à examiner la nature de l'hypothèse astronomique, à montrer son insuffisance et à essayer de fonder en raison, ce qui est quand même le paradoxe de Proclus, à fonder en raison un rejet des hypothèses des astronomes grecs. C'est un texte très, 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 très important. Le texte s'ouvre par une grande préface où, précisément, vous avez un très bel éloge de l'univers. Et en même temps, Proclus vous montre que l'univers est tellement beau et un tel produit de l'intellect divin qu'il est à peu près impossible pour un simple intellect humain de s'élever à la compréhension et à la connaissance de cet univers, bien qu'il le doive. C'est Platon qui nous l'a enseigné. Nous devons tenter de comprendre l'univers, mais nous ne pouvons pas y parvenir parce que l'univers nous dépasse très, très, très largement. Donc il y a un fond de scepticisme, ce qui est assez étonnant quand même chez un homme comme Proclus, et en même temps, ce scepticisme est très raisonnable, parce qu'il a bien mis le doigt sur les difficultés de l'astronomie grecque. C'est un des très rares textes, je pense même que c'est l'unique texte, où il y a une critique rationnelle des hypothèses astronomiques, des limitations de l'esprit humain dans le domaine de l'astronomie avant le XVIIe siècle.
Voilà, Denis Savoie, cette voix, elle vous parle, vous l'avez bien connue, Alain-Philippe Segond, on peut peut-être faire un petit portrait, un petit clin d'œil à cet homme.
Absolument, c'était un savant, on va dire, admirable, qui était le meilleur connaisseur, on va dire, de Proclus, un helléniste hors pair, et qui a traduit, d'ailleurs, ce texte de l'hypotypose, au début des années 1980, du grec en français, et c'est ce texte, vous l'avez annoncé, que nous allons publier aux éditions Les Belles Lettres, avec deux collègues, Conchetta Luna et Isabelle Pantin. Donc là, Alain Segond a parfaitement résumé, en fait, la problématique qui se pose à Proclus, c'est-à-dire que, quand vous regardez l'œuvre de Platon, elle est extrêmement pauvre du point de vue astronomique. Platon n'a jamais connu, par exemple, les sphères obocentriques qui seront connues par Aristote. Donc c'est les débuts, le balbutiement. On parle évidemment de l'astronomie en Occident, on ne parle pas de l'astronomie ailleurs. Et donc ça, on est au 4e siècle avant notre ère avec Platon, et Proclus, c'est le 5e. Or, il se trouve qu'entre-temps...
Il se passe pas mal de choses.
Énorme. Ouais. Alors, il y a eu déjà Apollonius de Perge, qui a inventé les épicycles et les déférents, pour rendre compte, vous savez, du mouvement apparent des astres, en particulier des planètes dans le ciel. Vous avez Hipparque, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui va faire une découverte extrêmement importante, qui est la précession des équinoxes, on va y revenir. Et puis surtout, le gros morceau, évidemment, c'est au IIe siècle de notre ère, le plus grand astronome de l'Antiquité, Ptolémée, qui va éditer une œuvre majeure, qui sera commentée par tous les médiévaux et tous les humanistes, c'est l'Almageste, avec d'autres textes auxquels Proclus a accès, notamment les hypothèses planétaires. Et donc, c'est ce texte extrêmement important en grec, qui est en 13 livres, qui est un texte, un des plus importants textes, on va dire, de l'histoire des sciences, qui permet, grâce à une cosmologie qui est une cosmologie géocentrique, à un instrument mathématique qui est la trigonométrie plane et la trigonométrie sphérique, et à des modèles de rendre compte de ce qui se passe dans le ciel. Parce que Platon avait dit dans ses ouvrages, essayer, ou même pas essayer, tenter, expliquer à l'aide de mouvements circulaires uniformes le mouvement des planètes dans le ciel.
Avant qu'on se penche un peu sur cette confrontation des conceptions du cosmos et de l'organisation de l'univers, Denis Savoy, si on revient sur l'hypotypose et son organisation justement, comment Proclus développe son propos, à quelle forme l'hypotypose, c'est un ouvrage long, c'est un texte long, comment ça se passe?
Alors c'est un ouvrage assez court, donc écrit en grec, qui comprend 7 chapitres, et c'est un ouvrage dont la structure est circulaire. Dans le premier chapitre, évidemment, il y a une préface dont Alain Segond parlait, qui est très admirable, et ensuite, dans ce premier chapitre, il énonce les 10 points qu'il va traiter. Les 10 points qui sont des problématiques pour les astronomes, en particulier tout ce qui concerne les boucles de rétrogradation des planètes qui ont des amplitudes inégales, l'inégalité des saisons, le fait que les astres n'ont pas un mouvement uniforme dans le ciel, le mouvement de précession. Et ensuite, il dit, dans les autres chapitres, il les examine point par point. Il suit de près, de toute façon, l'Almageste. Il va traiter du Soleil, de la Lune, des planètes, des parallaxes. Et à la fin, dans le chapitre 10, il fait la synthèse. Et là, il dit, voilà ce qu'on dit aux astronomes, et voilà ce que je pense moi, mais ça, c'est la conclusion finale sur laquelle on reviendra.
Il y a une dimension assez intéressante et assez paradoxale, parce que c'est une démarche assez scientifique en soi, de prendre finalement les éléments avec lesquels on n'est pas d'accord, et d'aller les décortiquer point par point, en voulant démontrer par la critique que Ptolémée, Hipparque se sont trompés, et que Aristote et Platon avaient raison.
Alors, Proclus, c'est pas un vulgaire philosophe. Il maîtrise très bien les mathématiques. Et je peux vous dire que quand vous regardez l'hypotypose de près, vous voyez qu'il a lu l'Almageste en détail, parce que l'Almageste est un texte extrêmement difficile. D'accord? Et il le détaille, il en fait un résumé, une synthèse, et il donne des valeurs numériques. C'est ce qui va intéresser d'ailleurs plus tard les humanistes. Et il n'est pas toujours d'accord avec Ptolémée. Alors, il y a deux points sur lesquels il n'est pas d'accord. Le premier, on l'a dit, c'est la précession des équinoxes.
Ça correspond à quoi, en gros?
Alors, en gros, si vous voulez, c'est un phénomène découvert donc au IIe siècle avant Jésus-Christ par Hipparque. C'est le fait que le repère mobile des coordonnées bouge. Ça se traduit comment? Ça se traduit au fait que aujourd'hui, l'axe de rotation de la Terre pointe vers ce qu'on appelle l'étoile polaire, qui est le phare de la petite ours, mais cet axe de rotation bouge dans le ciel. Il y a 4000 ans, cet axe de rotation pointait vers une autre étoile qui s'appelle Alpha du Dragon, et dans 12000 ans, l'axe de rotation de la Terre pointerait vers l'étoile d'Eneb. Donc, ce mouvement de toupie de l'axe de rotation engendre une modification de l'aspect du ciel étoilé en un lieu. Voilà. Dans 12000 ans, en France,
Notre étoile polaire, finalement, ne sera pas là.
Alors, elle sera plus là, mais on verra pratiquement du côté de Marseille émerger la Croix du Sud. Alors qu'il faut aller aujourd'hui vraiment du côté du tropique du Cancer pour la voir. Donc, ça change l'aspect du ciel en un lieu, et ça Proclus est contre. C'est quasiment le seul dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, qui dit « je suis contre ça ». Pourquoi? Parce que, alors, il se trompe. C'est une question d'échelle de temps. En fait, c'est très très long. Il dit, mais les Égyptiens ont dit qu'on voyait toujours les ours, etc. Hérodote aussi. Oui, mais c'est très très long. Il faut à peu près 12000 ans pour, disons, être sensible à ce changement des constellations visibles dans un certain lieu. Et puis d'autre part, les oracles chaldaïques ont dit que la sphère des étoiles n'avait qu'un seul mouvement, c'est le mouvement de rotation. Il peut pas y en avoir un autre, en particulier celui de précession. Donc il est contre. Et deuxième point, il contredit Ptolémée, et ça c'est très intéressant, sur le fait qu'il est possible d'avoir des éclipses annulaires de soleil. C'est-à-dire que vous savez que lorsqu'une éclipse de soleil est totale, la Lune a un diamètre apparent suffisant pour recouvrir complètement le soleil. Si au moment de l'éclipse, la Lune est loin de la Terre, est près de la Terre, pardon, mm-hmm. et que le Soleil est loin, vous pouvez avoir une espèce d'anneau, si vous voulez, autour. L'éclipse n'est pas complètement totale, on appelle ça une éclipse annulaire. Et c'est la première fois que quelqu'un dit, oui, la variation du diamètre du Soleil peut engendrer ce type d'éclipse assez Proclus.
Donc ça, Proclus, il arrive à mettre ça sur la table. On parlait de précession des équinoxes, de la variabilité aussi, de la durée des saisons. L'hiver est plus court que l'été. Ça aussi, ça pose problème aux astronomes antiques.
Alors justement, ça c'est un des grands génies de Ptolémée. Platon, je le répète, a dit expliquer le mouvement à l'aide, enfin le ciel à l'aide de mouvements circulaires uniformes.
Parfait.
Ptolémée immuable, va prendre,
voilà, ça c'est bouge vraiment pas. La conception platonicienne aristotélicienne, pardon.
Complètement. Et Ptolémée va prendre une certaine liberté par rapport à ce mouvement uniforme, parce que il se rend bien compte qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on voit uniquement à l'aide des mouvements circulaires uniformes. Premier exemple tout simple, les saisons. L'inégalité des saisons, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'été est la saison la plus longue et l'hiver la saison la plus courte, est connue depuis l'Antiquité. Et donc, pour expliquer ce mouvement, on ne met pas la Terre au centre de l'orbite, on l'excentre un petit peu. Et cet excentrique est déjà une violation du mouvement uniforme. Mais Ptolémée va aller beaucoup plus loin, en imaginant un point qu'on appelle le point équant, qui est un point symétrique de la Terre par rapport au centre, et qui permet, lui, d'expliquer, dans le cas notamment de la planète Mars, les inégalités de ces boucles de rétrogradation. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une violation du mouvement uniforme. D'ailleurs, c'est amusant de souligner que Copernic, au XVIe siècle, utilisera le même argument que Proclus, se dira « Oulala, mais quelle horreur !» C'est une violation, et refusera le point équant. Alors ça, évidemment, pour Proclus, ce point équant, c'est une abomination. Même s'il est obligé de reconnaître que ça rend compte quand même assez bien du mouvement des planètes dans le ciel.
Denis Savoy, il y a quelque chose d'essentiel quand on parle de Proclus et de l'hypotypose. Donc on comprend bien que c'est le défenseur d'une théorie néoplatonicienne de l'organisation du cosmos contre des savants qui, eux, sont très lus, très étudiés au Moyen-Âge. Cette dimension intéressante de l'hypotypose, c'est que c'est d'une certaine façon une archive en soi, une archive de textes que va passer Proclus, parce que le texte en lui-même, l'hypotypose de Proclus, va être beaucoup relayé et va avoir une postérité importante. Ça, il faut insister sur cette dimension-là de passeur, malgré lui, peut-être, qu'est Proclus.
Alors oui, alors si on va maintenant dans la postérité de ce texte, on a aujourd'hui 47 manuscrits que l'on connaît de l'hypotypose. Les plus anciens datent du XIIIe siècle et les plus récents du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'encore au XVIIIe siècle, on copiait l'hypotypose et le monde savant va découvrir ce texte à la fin du XVe siècle, où il y a un afflux massif en Occident de manuscrits grecs, mais il y a assez peu de gens qui lisent le grec, mais certains astronomes le lisent. C'est le cas par exemple de Regio Montanus, qui tout de suite repère ce texte très important. Alors on connaît le nom de Proclus, mais on connaît pas le texte. Hein. Et il va revenir à un mathématicien, plutôt un encyclopédiste, qui s'appelle Giorgio Valla, de publier la première, on va dire, encyclopédie en Occident, le De Expectandis, qui va être publié de façon posthume en 1501. Et c'est dans ce texte que Giorgio Valla va traduire du grec en latin l'hypotypose de Proclus. Et donc, le monde savant, en particulier Copernic et ses successeurs, et même Kepler, vont lire l'hypotypose à travers cette mauvaise traduction gréco-latine de Giorgio Valla. Le texte grec sera publié en 1540. Alors évidemment, ça les intéresse beaucoup, parce qu'il y a des données qu'on ne trouve pas ailleurs.
Oui, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de textes grecs qui ont disparu et qui ont disparu de façon assez irréversible et qui nous manquent, et qui manquent à la communauté des savants.
Alors, une grande partie des textes que cite Proclus, par exemple, ont disparu. Il cite dans l'hypotypose des gens comme Héron d'Alexandrie, qui est un ingénieur du 1er siècle. Alors, on a des textes d'Héron, mais par exemple, Proclus traite son traité sur les horloges hydrauliques, ça a disparu. Il cite un autre texte de Ptolémée, qui sera inconnu des médiévaux et des humanistes de la Renaissance, qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle les hypothèses planétaires. C'est un texte de Ptolémée, et c'est un texte cosmologique, qui est postérieur à l'Almageste, et dans les hypothèses planétaires, c'est là que Ptolémée envisage cet univers emboîté, si vous voulez, en pelure d'oignon. Parce qu'il faut rappeler que, pour les anciens, jusqu'à Copernic, vous avez la Terre, qui est immobile au centre du monde, qui ne bouge pas, et tout tourne autour d'elle. Ensuite, vous avez la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles. Alors, dans les hypothèses planétaires, Ptolémée va donner des distances de ces planètes à la Terre. Et vous savez que dans l'Antiquité, on ne connaît que deux seules distances. La distance Terre-Lune, qui est assez bonne, 64 rayons terrestres. La distance Terre-Soleil est totalement sous-estimée. On pense que le Soleil est 20 fois plus loin que la Lune. On se trouve c'est 400 fois plus loin. Et cette valeur sera d'ailleurs utilisée jusqu'au XVIIe siècle. Il faut attendre 1672 avec Cassini et Richer pour qu'on comprenne que le système solaire est beaucoup plus grand. Enfin bref, cette valeur des hypothèses planétaires, elle va être utilisée par les astronomes du Moyen-Âge et surtout de la Renaissance qui n'ont pas accès aux hypothèses planétaires. Les astronomes arabes et perses connaissent ce texte, mais ni les médiévaux ni les humanistes. Il faudra attendre 1620 pour que les hypothèses soient traduites du grec en latin par un astronome anglais qui s'appelle Bainbridge.
Et on ne parle pas aussi assez, Denis Savoie, de la dimension aussi pratique de ce texte qu'elle hypothépose et de la façon dont il rend compte finalement des moyens techniques dont disposaient ces astronomes grecs pour faire ces mesures-là, justement. Et là aussi, il y a un intérêt réel, très concret dans l'hypothypose, c'est de donner le mode d'emploi, finalement, d'instruments qui, aujourd'hui, nous paraissent un peu exotiques.
Absolument. Alors, Ptolémée en parle dans l'Almagest, mais alors là, Proclus, pour le coup, il développe beaucoup. Il donne 3 ou 4 instruments. Alors d'abord, ce qu'on appelle des armilles, qui sont, si vous voulez, c'est un anneau gradué, là, avec 2 systèmes de visée qui permet de déterminer la hauteur du soleil au solstice. Et surtout, il dit, mais comment est-ce qu'on les oriente? Parce que faire des mesures avec un instrument, c'est bien beau, mais il faut le mettre dans la direction nord-sud géographique. Il explique comment on trouve le sud géographique avec l'ombre d'un gnomon. Ça, c'est Proclus. Il va décrire aussi l'ancêtre de ce qu'on appelle les équatoires, c'est-à-dire une petite tablette avec une corde, une ficelle qui permet de trouver la position du soleil dans le ciel. Et il donne une expérience très intéressante pour le coup. Il essaye, parce qu'il s'intéresse aux distances, ça le titille beaucoup Proclus. Et il dit, faut mesurer la parallaxe. Et donc, faut mesurer aussi le diamètre. Il dit, pour mesurer le diamètre du soleil et de la lune, il faut que vous preniez ce qu'on appelle une dioptre. Alors, c'est un espèce d'instrument qui fait à peu près 2 mètres de long. Vous mettez votre œil à une pinule, si vous voulez, une plaque fixe. Vous avez une plaque mobile qui est à peu près à 1,50 m, 1,60 m, avec 2 petits trous séparés d'1,5 cm. Et vous devez, lorsque le soleil se lève à l'horizon, viser le bord supérieur et inférieur du soleil. Et là, vous en déduisez le diamètre apparent du soleil.
Par calcul trigonométrique.
Exactement. Et il dit, et en plus, vous allez mesurer le temps que le soleil se met à se lever et vous allez utiliser une clepsydre. Alors ça, c'est absolument incroyable parce que le soleil met à peu près la latitude d'Athènes à peu près 2 minutes 30 pour se lever et c'est absolument impossible avec une clepsydre de mesurer un intervalle de temps aussi petit. Donc des fois, Proclus est totalement naïf. Il dit, par exemple, vous allez graver vos instruments à la minute ou à la seconde, mais ce n'est pas possible. Et puis il va consacrer un chapitre entier à l'instrument phare de l'Antiquité, qui est la sphère armillaire. Ce sont des anneaux emboîtés les uns dans les autres, qui permettent évidemment, après calage correct vers le sud géographique, de mesurer directement les coordonnées d'un astre. C'est comme ça que Ptolémée va établir son premier catalogue d'étoiles grâce à cette sphère armillaire.
Je vous invite d'ailleurs à écouter un épisode de Science Chrono de l'an passé avec Victor Gisembert, où on avait retrouvé dans un palimpseste justement le mode d'emploi de ces sphères armillaires dans catalogue d'étoiles d'Hipparque. C'était absolument intéressant et on reparlait déjà de cette dimension de la perte de ces textes et de la quête de ces textes encore actuels. Denis Savoie, si on poursuit dans ce texte de l'hypothypose de Proclus, il y a une partie importante, c'est la conclusion aussi. Et est-ce que développe Proclus dans cette conclusion ce rapport finalement presque pionnier? Alors, on ne va pas parler de Proclus comme d'un pionnier, parce que pionnier, c'est un mot un peu grossier quand on parle d'histoire des sciences. Mais en tout cas, cette dimension, ce rapport au modèle finalement, qui développe dans la conclusion, c'est intéressant, parce qu'il dit, bon, moi je m'en tiens à mon néoplatonicisme, je dis que Hipparque, Ptolémée ont tort. Pourtant, ils manipulent des modèles, des hypothèses, et ça reste quelque chose à considérer. Ça, c'est une partie importante de cette conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, une fois qu'il a fait le bilan de tous les chapitres de l'Almagest, il dit, maintenant, la conclusion est la suivante. Alors, il n'est pas d'accord sur la précession, il n'est pas d'accord sur un autre point, mais c'est anecdotique. Et sur les autres, il leur donne quitus, quand même. Il dit, effectivement, ça marche bien, on peut prévoir avec l'Almagest la position des planètes dans le ciel, on est capable de prévoir les éclipses du soleil, de lune, quand est-ce que des planètes vont être en conjonction, ça marche très bien. Mais il dit je ne peux pas être d'accord avec eux. Alors, ce sont des gens de bonne volonté, mais il faut pas oublier que les astres sont des dieux, et seuls un platonicien qui applique la stricte, disons de façon littérale, la philosophie de Platon et des oracles chaldaïques peut accéder à cette connaissance de l'univers. Mmh. Et il dit surtout cet argument, mais majeur, autrement dit, on peut très bien imaginer des combinaisons de mouvements et toute une mécanique céleste qui rendent effectivement compte des, disons, des apparences, mais qui soient physiquement erronées.
Mmh. Et ça, cette dimension-là, est-ce qu'on va la retrouver plus tard, justement, avec, je sais pas, des Copernic, des Newton, qui, eux, vont justement faire précéder le modèle de l'observation et essayer de mettre en place, finalement, des théories sur des choses aussi concrètes que ce mouvement des astres?
Alors, ce qui est frappant, c'est que Proclus, qui c'est quand même quelqu'un d'intelligent, et Alain Segond soulignait, c'est il fait une analyse rationnelle de l'Almageste, et il conclut par quelque chose d'irrationnel. Et effectivement, les astronomes qui vont critiquer, notamment les théologiens au XVIe ou XVIIe siècle, vont réutiliser cet argument de Proclus, parce que Ptolémée, effectivement, ça marche. Vous pouvez très bien, dans une astronomie géocentrique, rendre compte du mouvement des planètes avec en faisant des petites corrections, mais vous savez que physiquement, ce modèle est faux. Et c'est ce que va montrer... qu'on va montrer après Copernic, qui en 1543 affirme que ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais c'est le Soleil. Donc ça va être le triomphe de l'héliocentrisme qui va déboucher, comme on le sait, sur la condamnation plus tard de Galilée, qui va prendre fait et cause pour lui. Ça sera un des arguments qui sera d'ailleurs retenu. On peut... C'est pas parce que vous avez un modèle qui marche qu'il est physiquement exact. Donc ça, c'est aussi valable aujourd'hui, en cosmologie. On développe...
On parle de matière noire, on parle d'énergie noire.
D'inflation, ouais. De choses comme ça. Alors, ce sont des modèles qui rendent compte, effectivement, de ce qu'on voit plus ou moins aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques siècles, eh bien, comme Proclus, on dira, mais finalement, non, ça ne marche pas. Parce qu'on croit en notre physique actuelle, mais si ça se trouve, dans 10 ou 15 siècles, on aura une autre physique qui montrera qu'on est dans l'erreur.
On évoquait tout à l'heure, Denis Savoie, la postérité de Proclus, le fait qu'il ait été copié, réédité jusqu'au XVIIIe siècle. Comment explique-t-on le fait qu'un texte comme l'Hypothypose tombe dans l'oubli, soit éclipsé pour rester un peu dans le thème?
Alors en fait, c'est vrai, au XVIe siècle, enfin 15e, 16e siècle, tout le monde connaît Proclus et son Hypothypose. Et puis, les éléments, son commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide, un peu son commentaire sur le Timée, parce qu'il parle un petit peu de science. Évidemment, après, ça tombe en désuétude. Après, au XVIIe siècle, avec le triomphe de l'héliocentrisme, Proclus va tomber dans l'oubli, même si c'est une très bonne introduction à l'Almageste, ça va tomber en désuétude. Et finalement, il va être redécouvert, Proclus, au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, mais non plus par son côté scientifique, mais par son côté, on va dire, métaphysique. Et c'est au XIXe siècle qu'on se remet à traduire massivement tous ses commentaires platoniciens, le premier Alcibiade, son commentaire aux Permanides, etc. Et ça se pratique encore aujourd'hui, il suffit de voir aux éditions Les Belles Lettres, tout ce qui se publie sur Proclus, c'est très impressionnant.
Et vous prenez le relais en proposant justement une nouvelle édition à venir à l'automne 2025 de cette Hypothypose de Proclus. Quel travail ça requiert? Comment vous préparez cette réédition-là?
Alors, elle est pratiquement terminée. Donc, on a repris un texte de Alain Segond qui avait fait une excellente traduction sur le texte grec qui a été établi au début du XXe siècle par un grand philologue allemand qui s'appelait Karl Manicius. Et donc, ce texte traduit par Segond, en fait, a circulé auprès d'un très petit nombre de gens. Et il y a 5-6 ans, j'ai dit, eh bien, il faut absolument le publier. Donc, avec Concetta Luna de l'École normale supérieure de Pise et Isabelle Pantin de l'École normale supérieure de Paris, nous avons fait cette édition avec, évidemment, une longue introduction sur la vie de Proclus, sur l'histoire de tous les manuscrits, sur Proclus à la Renaissance, le texte grec avec sa traduction français-grec, et puis des notes que Concetta Luna et moi avons fait à la fin, qui expliquent évidemment tout son caractère astronomique et tout son lien avec la philosophie néoplatonicienne. C'est un très grand texte.
On a hâte d'avoir ce grand texte entre les mains très prochainement. Merci beaucoup à vous, Denis Savoie, d'être venu nous parler de cette Hypothypose inconnue, mais à connaître. Deep dark cosmos, you know time moves fast or slow. Depends who's high or low. It depends. Deep dark cosmos, you know I got the formula now. Deep Dark Cosmos par Holly Walker pour passer d'un monde à l'autre et passer de l'histoire des sciences en mer Méditerranée à l'archéologie dans l'océan Pacifique. On ouvre à présent la deuxième page de notre émission et on part au Vanuatu.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Vincent Charpentier, Antoine Beauchamp.
Il arrive que les légendes ne soient pas des fables. L'exemple du chef Roy Mata au Vanuatu en est l'illustration parfaite. Ce chef, dont l'histoire légendaire a été transmise oralement dans l'archipel pendant des siècles, a intrigué des ethnologues et des archéologues qui se sont mis en tête de chercher sa tombe. Et en 1967, sur l'îlot inhabité de Retoka, au large de l'île d'Efate, des fouilles mettaient au jour l'un des plus grands ensembles funéraires de tout le Pacifique Sud, la sépulture collective du fameux Roy Mata. Comment cette découverte a-t-elle permis de conférer une fiabilité historique à la tradition orale? Quelles ont été les conséquences de ces travaux sur la pratique de l'archéologie et de l'ethnologie? Et comment cette légende continue-t-elle de vivre aussi bien dans la tradition orale du Vanuatu que dans les études archéologiques? Pour répondre à ces questions et à toutes les autres, et elles sont nombreuses, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Valentin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, directrice de recherche CNRS au sein de l'unité technologie et ethnologie des mondes préhistoriques de la MSH Monde. Avec nous également Wanda Zinger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bioanthropologue à l'université de Tübingen au sein de l'équipe d'archéopaléogénétique et chercheuse associée au Musée de l'Homme. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer à la fois comment la tradition orale a servi d'indice premier pour la recherche archéologique, mais aussi comment cette découverte de la sépulture de Roy Mata a irrigué la recherche sans interrompre la transmission orale autour de ce personnage clé dans l'histoire et la culture du Vanuatu. Notre histoire, Frédéric Valentin, elle commence d'un point de vue scientifique et archéologique au milieu du XXe siècle. À cette époque, l'archéologie du Pacifique, est-ce qu'elle était un angle mort de la recherche ?
Effectivement, c'est dans les années 60 que l'archéologie s'est véritablement développée dans le Pacifique, je veux dire développée d'une manière institutionnelle, professionnelle. Et concernant cette période, Jean Guiard, un ethnologue qui travaillait dans la région, a eu l'idée de réunir en 1961, lors d'un colloque très important qui s'est tenu à Hawaï, plusieurs archéologues. Et à ce moment-là, il a été décidé de développer deux grands programmes archéologiques au Vanuatu. L'un dans le sud, qui a été mis en œuvre par l'archéologue Richard Schuttler avec sa femme Elisabeth Schuttler, et dans le centre du Vanuatu avec José Garanger.
Ça, c'était une démarche très novatrice déjà à l'époque de rapprocher ces deux disciplines. Un autre aspect très novateur dans ce dialogue entre ethnologie et archéologie, c'est le fait de s'attacher à étudier les traditions orales et les légendes et d'en faire des objets d'études ethnologiques, non seulement ethnologiques, mais aussi archéologiques.
En 1957, Jean Guiard s'intéressait particulièrement au système de titres et de chefferies du Vanuatu. Et pour servir sa recherche, il a relevé de très nombreux récits. Et parmi ces récits, il en a repéré certains qui montraient des indices qui pouvaient être traités par l'archéologie. Et de ce fait, il a proposé un challenge à José Garanger. Et au cours de sa thèse, José Garanger, en 1967, a été intéressé par la relation qui pouvait y avoir entre les récits oraux et les mémoires du sol, l'archéologie.
On peut parler ici de l'influence qu'avait André Leroy-Gourhan sur ce type d'approche. C'est vraiment tout cet univers de pensée-là qui plane.
Voilà, c'est la même école. En fait, José Garanger faisait partie de l'équipe d'André Leroy-Gourhan et sur le terrain, il a appliqué la méthodologie d'André Leroy-Gourhan. Et donc, passionné par les histoires que Jean Guiard a pu lui raconter, il s'est orienté vers une recherche particulière qui était de savoir si on pouvait mettre en corrélation les récits oraux et l'archéologie, ce qu'on trouvait dans le sol. Et de là, en 1967, il a été vraiment impressionné par la légende de Rauhimata.
Cette légende de Rauhimata, il faut la raconter parce qu'elle est fascinante, elle est consubstantielle finalement à l'histoire aussi culturelle du Vanuatu. Que dit cette légende-là? Qui est ce personnage Rauhimata ou qui sont ces personnages qui composent cette lignée de chefs Rauhimata?
Alors, en fait, oui, il s'agit véritablement d'une lignée. Rauhimata est un personnage légendaire, un héros mythique. La légende dit qu'il venait du sud en pirogue avec plusieurs de ses compagnons et qu'il a abordé l'île d'Efate dans le centre du Vanuatu par sa côte est. Mmh. Il s'est installé là, peu à peu a dominé les populations côtières de l'île, a créé de nouveaux chefs, a choisi parmi ses compagnons plusieurs d'entre eux qu'il a installés dans des clans ou chefferies différentes sur Efate, qu'il a également envoyés vers le nord, vers des îles qu'on appelle aujourd'hui Shepard et d'autres également. Il les a envoyés vers une île mythique aussi, qui s'appelle Kauai.
Kauai, d'ailleurs, qui a été le théâtre d'une catastrophe volcanique très importante au XVe siècle. Et ça, c'est très intéressant dans cette histoire de Rauhimata, de voir les ponts qui peuvent se dresser entre la légende et une histoire bien concrète, bien réelle, qui a eu des effets de bouleversement massif sur les populations de cette région.
Tout à fait. Il s'est produit une éruption volcanique majeure qui a fait exploser l'île de Kauai en plusieurs fragments dont il reste des éléments encore aujourd'hui, notamment dans l'archipel des Shepard, Tongoa et l'île d'Epi. Cette explosion volcanique s'est produite en 1452. Et elle a eu des conséquences majeures
planétaires sur le climat de la planète qui a été impacté par cette éruption,
mais aussi locale. La vie était devenue invivable sur ces fragments d'îles et en conséquence, les populations ont fui. Elles ont fui vers le sud, vers Efate, où elles se sont installées.
Et il y a eu, nécessairement, quand il y a une crise, il y a des conflits. Et c'est là aussi où on revient à Rauhimata, qui a peut-être un rôle de pacificateur dans cette histoire-là et dans cette légende-là qui est centrale.
Alors effectivement, il est dit que Rauhimata a pacifié des conflits qu'on a nommés les grandes guerres d'Efate. Et en fait, Rauhimata aurait complètement transformé les structures sociales de la région et aurait créé un nouveau système social qu'on appelle le Neflak. On en reparlera un tout petit peu plus tard. La légende raconte aussi que à sa mort, son corps a été exposé dans les différents clans qui lui devaient allégeance, qu'ensuite il a été transporté sur un petit îlot corallien.
Je vous interromps, Frédéric Valentin, parce que justement, c'est rare dans cette émission d'entendre des archives, mais je voulais qu'on entende José Garanger. Et Rauhimata est mort, on en parle, et c'est un élément central dans la découverte archéologique qu'il a faite. Je vous propose qu'on écoute un extrait des après-midi de France Culture du 19 mars 1974, la voix de José Garanger.
Héroï Mata est mort.
Héroï Mata est mort. Dans la légende d'ailleurs dit, ou la tradition raconte qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a été conduit dans tous les villages, disons, pour simplifier, qui lui devait être allégeance. Et puis les gens ont traversé, on est toujours dans le domaine du mythe, la mer s'est ouverte, c'est encore, on pourrait croire une réminiscence biblique, mais non, c'est parce que le séjour des morts est dans la mer, au fond de la mer, enfin l'entrée du séjour est dans la mer. Et les gens sont passés, la mer s'étant ouverte, sans pirogue, et on avait entraîné des représentants de chaque clan, pourrait-on dire, pour être immolé avec lui, l'accompagné dans la tombe, tout au moins, ce qui était une pratique connue et qui s'est contrôlée. Je l'ai contrôlé plusieurs fois dans l'archipel. Et alors on décrivait assez bien...
C'est-à-dire que lorsqu'un chef meurt, on enterre à côté de lui ses suivants ou sa famille.
Oui, si vous voulez, et d'autant plus qu'il est important. Et dans les autres sépultures, je n'ai jamais trouvé plus de 3-4 personnes. Et ici, à mon étonnement et à ma surprise, il y en avait une cinquantaine.
Voilà, une tombe particulièrement impressionnante, cette tombe de Roy Mata que découvrent José Garanger et son équipe en 1967. Frédéric Valentin, que découvre concrètement José Garanger quand il fait ses fouilles sur cette île restée taboue au Vanuatu, l'île de Retoka?
Alors, effectivement... Comme le disait José, la fouille archéologique a mis en évidence, un grand nombre d'individus, une cinquantaine, des hommes, des femmes et un enfant, enterrés ensemble, au même moment, avec un arrangement spécial, unique, sur deux niveaux. Au niveau le plus profond, une sépulture renfermait un personnage central, avec la tête à l'aplomb d'une pierre dressée que l'on voit encore aujourd'hui sur l'îlot, avec entre ses jambes un dépôt secondaire en forme de paquet. Ce personnage central était entouré d'un couple à sa gauche, d'un homme et d'un cochon à sa droite, et d'une femme à ses pieds. Au niveau supérieur, entourant la sépulture profonde, Garanger et son équipe ont mis au jour 11 couples et 12 individus enterrés seuls. Cette organisation indique une hiérarchie visible donc à deux niveaux. D'une part, entre la sépulture profonde et la sépulture plus superficielle qui entoure la sépulture profonde. Et au niveau superficiel, on avait... des couples qui étaient arrangés en arc de cercle autour de la sépulture profonde.
Et ce qu'il faut dire, Frédéric Valentin, c'est que ces couples, ils sont mis dans des positions enlacées qui sont assez impressionnantes et assez touchantes quand on observe les images qui ont été réalisées par José Garanger, entre autres.
Les hommes étaient allongés sur le dos, les bras et les jambes étendus, alors que les femmes étaient sur le côté, en position fléchie, agrippant leur partenaire. Ces différences de position suggèrent des différences de traitement. José Garanger interprète ces positions en relation avec les techniques de mise à mort des individus.
Qui ont été inhumés en même temps que le chef qui lui était déjà mort. Et donc là, il y a eu vraiment un rituel collectif d'enterrement vivant de ces personnes qui ont été, a priori, droguées pour les hommes et peut-être étranglées pour les femmes. C'est ça, c'est la question qui se pose?
Alors, la légende dit que les hommes avaient été drogués au cava. Le cava est une boisson que l'on obtient à partir d'une plante, le Piper mysticum, qui est une boisson traditionnelle, coutumière, encore aujourd'hui au Vanuatu. Boisson qui est très importante dans l'ensemble du Pacifique. Et la légende dit aussi que les femmes auraient été enterrées vivantes.
Ces personnages-là qui sont enterrés, ils sont aussi ornés de parures assez impressionnantes qui témoignent peut-être aussi de leur statut social. Est-ce qu'on peut déjà émettre des hypothèses sur leur rang, leur place et la raison pour laquelle ils ont été et elles ont été enterrées en même temps que ce fameux Roy Mata?
Alors effectivement, de très nombreux objets ont été associés aux défunts de Retoka. Il s'agit de colliers, de ceintures, de bracelets qui étaient au niveau des épaules, des coudes, des genoux, des chevilles. Ces ornements étaient constitués d'éléments de forme et de nature variées. Il y avait des coquillages, des pierres, des dents de cétacés, des os de poissons, d'oiseaux, de mammifères, des dents de cochons qui ont une très grande valeur au Vanuatu. La répartition de ces différents ornements est inégale. Mais elle n'est pas, cette inégalité n'est pas liée au sexe des individus. Pour José Garanger, cette inégalité symboliserait des groupes sociaux distincts, dont il est fait mention dans la tradition orale, c'est-à-dire des groupes sociaux ou des clans différents qui étaient globalement associés à Rohimata dans l'exercice de sa fonction de chef.
Rohimata aurait été donc enterré avec sa cour, d'une certaine façon. Je crois que c'est une pratique qui a été documentée en Mélanésie jusqu'au 19e siècle, à peu près. On parlait tout à l'heure aussi de paquets d'ossements. Est-ce que ce sont des ossements humains? Est-ce qu'on a affaire ici à des pratiques de réinhumation, d'une certaine façon, où on a prélevé des ossements ailleurs, qu'on a enterré en même temps que ce groupe-là, au moment de la cérémonie?
Effectivement, sur le site de Retoka, José Garanger a mis en évidence plusieurs paquets funéraires. Certains de ces paquets sont composés des ossements d'un seul individu qui ont été regroupés, mais pas regroupés n'importe comment. Ils ont été organisés avec une forme humaine. Les os longs et les autres éléments postcrâniens étaient réunis ensemble et à chaque extrémité, l'une conservait le crâne et l'autre les os du bassin.
Je trouve cette histoire, moi, elle m'a complètement fasciné. Je la connaissais pas très bien. Et là, vraiment, de me plonger dedans pour la préparation de cette émission, je me suis dit, mais c'est fou de se dire qu'une tradition orale, une légende, contiennent une histoire et contiennent finalement le récit de ce site qui a été mis au jour par José Garanger. Il faut peut-être rappeler l'importance qu'a eu cette découverte dans peut-être l'archéologie du Pacifique et dans même l'approche archéologique tout simplement et ce rapport que peut avoir l'archéologie au récit oraux.
Effectivement, cette découverte réalisée par José Garanger a fortement influencé les recherches menées par les archéologues français dans la zone Pacifique.
Dont vous faites partie.
Voilà, c'est vrai, des travaux menés par Christophe Sand dans différentes îles du Pacifique et notamment en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, des travaux que nous avons menés, Christophe, moi-même et Daniel Frimigacci, dans la petite île de Wallis, Uvea. C'est vrai également des travaux qu'a pu mener Éric Comte dans les Tuamotu.
Et cette recherche sur la tombe de Rohimata, elle ne cesse pas avec cette découverte de José Garanger et les analyses postérieures qui ont été réalisées, immédiatement postérieures qui ont été réalisées. Van Dasinger, vous avez réexaminé des ossements qui appartenaient à cette tombe de Rohimata. Quelles questions vous avez posées à ces collections d'ossements qui étaient au Musée de l'Homme et quels résultats, quelles réponses vous avez obtenues?
Alors, c'est vrai que le site de Rohimata, il est exceptionnel parce que en fait, on a la composition biologique d'une communauté à un instant T de son histoire. Et ça, c'est vraiment très particulier. Donc en fait, on voulait un peu comprendre cette composition au sein de la communauté et également, on n'en a pas parlé, les influences polynésiennes du site, parce que la légende de Rohimata raconte que Rohimata lui-même n'est pas forcément originaire de l'île d'Efate, que ses parents sont peut-être d'ailleurs. Et Efate est une île qui comporte beaucoup de communautés qui parlent une langue polynésienne aujourd'hui. Et ce sont des communautés très paradoxales parce que leur biologie n'est absolument pas liée à des sociétés polynésiennes d'aujourd'hui.
Il y aurait une importation culturelle.
Voilà, le but c'était un peu de comprendre comment le site de Roimata s'intégrait dans cette recherche sur la formation de ces influences polynésiennes dans la région. Et alors on a fait deux analyses concernant l'étude de deux biomarqueurs très particuliers, celui de l'ADN et celui de la morphologie du calvarium. Et donc, on a eu un résultat très intéressant. On a déjà appris que la société, la communauté de Roimata était très hétérogène, avec des individus affiliés aux populations modernes du Vanuatu aujourd'hui, des individus métissés, et puis des individus polynésiens. On en a trois, des individus polynésiens. Alors, ils nous apprennent beaucoup de choses. Déjà, on sait grâce à eux, qu'il y avait effectivement des individus qui venaient de Polynésie et qui étaient intégrés dans les sociétés locales du Vanuatu.
Vous dites grâce à eux, mais c'est grâce à elles.
Alors justement, voilà, on va parler de cette intégration. Mmh. On sait que justement, ces trois individus, ils sont à l'intérieur du site, rien ne les distingue des autres individus mélanésiens, ils n'ont pas de position particulière, pas de matériel particulier, etc. Fait exceptionnel, ces trois individus sont tous de sexe féminin. Deux d'entre elles sont enterrées en étroite association avec un homme, donc en couple, voilà, de manière assez émouvante, vous l'avez mentionné, et une d'entre elles est enterrée seule. Donc déjà, on a une petite indication sur le statut probable de ces individus. Deux sont peut-être des épouses et une autre a un statut autre dont on ne sait pas, mais en tout cas un statut d'importance pour être intégré dans la cérémonie de mortuaire de Roimata. Donc ça nous a interpellé un peu ces femmes et voilà, on a regardé du côté de la tradition orale encore. On quitte pas cette tradition orale, on y revient constamment et donc dans la région, on a énormément de mentions, notamment des chants, qui évoquent des pratiques d'exogamie féminine. Donc c'est le fait qu'une femme aille se marier à l'extérieur de son village.
Parfois loin, très loin.
Et parfois loin, très loin. Et ça encore, c'est quelque chose que nous apprend les trois femmes de Roimata, qu'il y avait peut-être voilà des femmes de Polynésie qui migraient, qui étaient mobiles et qui faisaient partie de ces réseaux sur de longues distances dans le cadre d'exogamie féminine. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on a un but pour la mobilité, ce qui est très rare. Et plus précisément sur Roimata, dans la tradition orale de Roimata, alors là, les mentions des femmes sont beaucoup plus rares, mais on en a trouvé une. Comme vous l'avez dit, Roimata a cette image de chef pacificateur, et notamment dans concernant un événement très particulier, celui de l'instauration du NAFLAC. Frédéric l'a dit, il transforme profondément le système social de l'époque.
Expliquons ce qu'est le NAFLAC.
Le NAFLAC ou le NAFLAC, c'est une cérémonie de paix qui a lieu tous les 5 ans et
aujourd'hui
qui existe encore aujourd'hui, et oui, on a une continuité, et où en fait Roimata décerne un emblème social qui s'apparente à un totem, donc ça peut être le totem du tarot, de l'igname, etc. Et donc chaque personne partageant le même totem doivent s'entraider. Donc, ce qui facilite la coopération entre différents villages ou différents clans. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important avec ces totems, c'est qu'ils jouaient un rôle dans la régulation des mariages et qu'ils n'étaient transmis seulement par les lignées féminines, donc transmission matrilinéaire. Et c'est là qu'on s'interroge sur le rôle de ces femmes, de ces trois femmes polynésiennes dans la communauté de Roimata, et notamment sur leur pouvoir et leur impact dans la transmission d'éléments culturels polynésiens, et donc dans la langue aussi polynésienne. Et donc elles auraient pu jouer un rôle prédominant dans l'histoire des sociétés qu'on observe aujourd'hui, notamment celle des enclaves.
Et ce qui est intéressant, Wanda Zinger, vous le soulignez, le fait que les femmes comme les enfants, dans la tradition orale, sont souvent un peu dans l'ombre quand même.
Et voilà, et donc c'est pour ça que le site de Roimata est exceptionnel, et notamment ces nouvelles analyses bioanthropologiques modernes, parce qu'elles permettent de mettre en valeur la place des femmes qui sont les grandes invisibilisées des sources ethno-historiques du dernier siècle. Les femmes et les enfants aussi.
Bien sûr. Et il faut le souligner aussi, Wanda Zinger, on l'évoquait, le fait que la tradition orale, la légende de Roy Mata continue d'exister. Frédéric Valentin, est-ce que ce Roy Mata qu'on a trouvé dans cette sépulture découverte par José Garanger est le dernier des Roy Mata ou bien est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
Ah, vous me posez une question, piège. On a daté les ossements et le matériel provenant du site de Retoca. José Garanger avait réalisé une première datation au moment de la découverte et une datation qui portait sur une analyse carbone 14 d'ossements provenant de Roy Mata. Et la datation avait donné un résultat du XIIIe siècle. Et depuis, les analyses carbone 14 ont beaucoup évolué. Des réévaluations ont été réalisées. Et notamment, d'autres ossements ont été datés qui permettent de penser que cette grande cérémonie s'est produite au XVIIe siècle.
Au tout début du XVIIe siècle, avant l'arrivée des premiers colons?
Et donc avant l'arrivée des Européens dans la région.
Est-ce que d'autres recherches archéologiques actuelles prennent finalement la suite de José Garanger et continuent d'essayer de trouver, grâce à des traditions orales, d'autres types de vestiges dans la région?
La région du Vanuatu, oui, effectivement, les habitants du Vanuatu sont globalement très concernés par leur histoire, par leur tradition orale. Et donc la légende de Roy Mata est toujours très vivante, mais pas seulement. De manière plus locale, certaines communautés s'intéressent à leurs histoires et ont pour idée de voir si, avec l'archéologie, on pourrait éventuellement confirmer, entre guillemets, la véracité de certaines histoires. Et c'est une chose qu'on a pu découvrir avec les personnes localement sur la côte est du Vanuatu l'année dernière.
Il faut dire aussi que ces découvertes qui avaient été réalisées par José Garanger ont été restituées au Vanuatu à sa demande, comme il l'avait expressément formulé au début des années 2000. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de cette légende. Une petite annonce en conclusion de cette émission. Si vous passez par La Rochelle, vous pouvez aller voir l'exposition Vanuatu, pouvoir des femmes, qui se tient au Musée d'Histoire Naturelle jusqu'au 21 septembre 2025 et qui parle un tout petit peu de Roy Mata. Merci beaucoup Wanda Zinger et merci beaucoup Frédéric Valentin. Et elle est super en plus. Merci beaucoup Frédéric Valentin de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur les pas de Roy Mata. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Anna Holweck. Merci à Grégory Wallon aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.